Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Je vous espère en forme et je vous imagine déjà en pleine préparation des fêtes qui approchent à grands pas. Alors pour vous accompagner, on vous a concocté une émission qui devrait vous aider à faire les bons choix. C'est parti, sommaire. Alors que les fêtes de fin d'année approchent plein feu sur l'incontournable boisson des grandes célébrations, j'ai nommé le champagne. Millésimé, brut classique, blanc de blanc, blanc de noir, quels sont les champagnes stars de ce Noël 2021? Réponse dans un instant avec Sylvie Metzelaar. Envie de créer une couronne de Noël pour habiller votre porte d'entrée ou un chemin de table parfait? Eh bien Pierre Nesman, notre paysagiste, vous donne des idées faciles pour faire de son logis une féerie végétale. À la fois raffinée et conviviale, la cuisine thaï, c'est un subtil mélange de sucré et de salé, de saveurs aigres douces et épicées. Mais comment s'initier et préparer soi-même les fameuses nouilles, pad thaï, la soupe de poulet au lait de coco ou la salade de papaye verte et poulet grillé à la citronnelle? Eh bien, on va suivre notre guide Plap Sarupala. À tout de suite. Metzelaar, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs du numéro de décembre qui est actuellement en kiosque. Alors, est-ce que 2021, c'est une bonne année pour le champ?
Ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Alors, ce sera une bonne année en termes de chiffre d'affaires, hein, en termes de consommation. Cette année, ça, on a vraiment remonté un peu notre consommation. Hein, on a remonté les doses.
Oh, écoutez, on en a besoin hein, de temps
voilà,
en temps.
En toute modération,
mais ça fait du bien.
Voilà, les professionnels parlaient même d'une année exceptionnelle hein, avant l'arrivée du dernier variant qui risque un peu quand même de nous gâcher les fêtes de fin d'année. Mmh. En revanche, côté récolte, ça n'a pas été terrible. On s'en rappelle, les conditions climatiques ont été un peu mauvaises hein, cet été avec une pluviométrie assez forte. Du coup, il y a eu des attaques de mildiou et ça a amputé quand même 20-25% de la récolte. Alors, si répercussions il y a, c'est pas sur cette année, hein, car le champagne que l'on boit, c'est jamais issu de la récolte de l'année. Mmh. Ce sera plus tard, mais en même temps, les producteurs, c'est un vin d'assemblage de champagne. Hein. Ils ont des vins de réserve qui permettent de lisser ce type de soucis. Donc,
Il y en aura pour tous les goûts. Hein
voilà.
Très bien. Comment est-ce qu'on peut décrypter l'étiquette d'une bouteille de champagne, Sylvie?
Bien malin qui peut décrypter une étiquette de champagne, car il y a très peu d'indications obligatoires hein, sur ces étiquettes, à part le degré d'alcool, la contenance. Alors on peut retrouver à la limite le cépage, alors essentiellement du chardonnay hein, pour les bruts, mais sinon on a très très peu d'indications. On a le millésime pour les champagnes millésimés. Par exemple, on sait que 2012 et 2015 sont des bonnes années.
Très bien, ça c'est noté. Brut, extra brut et nature, quel est le rôle du dosage dans le goût du champagne?
Alors, brut, extra brut, dry, demi-sec, alors tout est question de sucre, hein, en fait. Oui. Après ce qu'on appelle le dégorgement, hein, alors en gros, c'est quand après la deuxième fermentation, les levures ont été évacuées des bouteilles, le vigneron, il ajoute ce que l'on appelle une liqueur de dosage à base de sucre de canne. Alors, le taux de sucre varie, c'est plus ou moins important. Pour le brut, alors c'est l'essentiel de ce qu'on consomme, hein, c'est quand même 86,5%, si je ne dis pas de bêtises, de ce qui est vendu en grande surface. Oui. On a une teneur qui est inférieure à 12 grammes par litre, alors qu'un extra brut, ce sera 6 grammes. Et un demi-sec, on sera entre 32 et 50 grammes. Donc c'est beaucoup plus, hein, bien sûr. D'où le fait qu'on réserve celui-là plutôt au dessert.
Et alors, les mentions brut sans année, cuvée spéciale, cuvée parcellaire, millésime, ça veut dire quoi?
Le brut sans année, c'est le champagne de base. Il est élaboré à partir de cépages, d'années et de régions différentes. C'est un joyeux mélange, ça c'est le basico-basique. Okay. La cuvée parcellaire, là vous êtes déjà dans du haut de gamme, c'est un champagne qui est élaboré à partir de raisins qui sont produits sur une parcelle très spécifique, qui a un sol particulièrement favorable. Donc là, c'est un bon champagne, hein, généralement. Et le millésime, c'est le seul qui a une année inscrite sur la bouteille et sur son bouchon aussi, d'ailleurs. Vous ferez attention si vous jamais vous en achetez un. Alors lui, il a été produit avec des raisins d'une seule année. Lui, on ne mélange pas hein, différentes années. Il a été affiné pendant 36 mois, alors que c'est 15 mois pour un brut.
Donc ça veut dire que c'est mieux.
C'est plus élaboré. En général, c'est quand même vraiment bien.
On sent là l'aficionada. Quelle différence y a-t-il entre le champagne blanc de blanc et blanc de noir?
Dans le champagne, il faut savoir qu'il y a trois cépages majeurs. Hein. C'est le chardonnay, on en parlait tout à l'heure pour le brut, hein. C'est le pinot noir et le pinot meunier. Alors le blanc de blanc, c'est un cépage avec des raisins blancs à chair blanche, du chardonnay donc. Alors c'est un peu acide comme ça, avec des notes de fruits blancs comme la pomme ou la poire. Et le blanc de noir, c'est du pinot noir, le cépage. C'est un raisin à peau noire et chair blanche, et ce qui donne des saveurs de fruits qui sont plus proches de la framboise que l'autre qui était plus proche de la pomme, par exemple.
60 millions de consommateurs a mené l'enquête et dévoile son classement des meilleures bouteilles, justement, dans le numéro qui est actuellement en kiosque. Parmi toutes ces cuvées de champagne que vous avez étudiées, est-ce que vous pouvez nous conseiller une bouteille de champ millésimé, un brut classique et un blanc de blanc?
En millésimé, on a un Castellane 2019 à 19 euros. Pour un millésimé, c'est quand même assez top. C'est la meilleure note de la dégustation que l'on a organisée. Il a eu 15,5 sur 20. En brut classique, on a distingué un Charles de Courance. Alors Charles de Courance, ça ne vous dit rien comme ça. En fait, non. C'est la marque distributeur de Carrefour qui a quand même eu un 15 sur 20. Et le meilleur blanc de blanc, c'est le Ménil. Alors c'est plus cher, c'est 25 euros, mais pour un 13,5 sur 20 seulement.
Mais moi, je m'attendais à des noms de champagne que l'on connaît, que l'on voit et dont les prix s'envolent en règle générale.
Oui, le prix, c'est pas toujours gage de qualité. On le voit, on a de très bonnes surprises avec des petits vins qui payent pas de mine et des déceptions avec des plus grands noms. Alors effectivement, nous, cette année, on s'est vraiment limité à une enveloppe entre 19 et 38 euros. Et le 38 euros, c'est un mum, par exemple. Oui. Il a obtenu 12 sur 20. C'est pas une note médiocre, mais c'est vraiment pas une note terrible par rapport à des 15,5 comme on a eu par ailleurs.
Alors, qui sont les cancres, je dirais, si je puis m'exprimer ainsi, de votre enquête?
Alors, toutes les marques distributeurs ne sont pas extra. Il y a quelques cancres. Mais surtout, le conseil par rapport à cette dégustation, c'est peut-être mieux vaut éviter les blancs de blanc et les blancs de noir. Parce que ça fait pas assez longtemps que les distributeurs se sont mis à en vendre. Et c'est pas toujours très au point. Les plus grosses déceptions, c'était sur ces champagnes-là.
On va se retrouver dans un instant, Sylvie Metzeler. Vous allez nous donner des conseils pour notre réveillon. Ensuite, on parlera avec Pierre Nesman des couronnes de Noël, de la déco de Noël, quelque chose d'un peu nature qu'on peut aussi faire soi-même. Et puis, de la cuisine thaï. Vous allez avoir une véritable révélation pour vos papilles. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Nous voilà bien, c'est votre rendez-vous conso du samedi matin de 9h15 à 10h. Avant de parler nature avec Pierre Nesman, avant de parler cuisine thaï avec Plap Saropala, eh bien on parle champagne avec Sylvie Metzeler. Parce que 60 millions de consommateurs dévoilent donc son classement des meilleures bouteilles de champagne. À l'approche des fêtes, c'est toujours bon de savoir où l'on va, Sylvie Metzeler. Si je veux un seul champagne pour tout le réveillon, parce que vous me parliez tout à l'heure des champagnes plutôt pour le dessert, plutôt pour l'apéro, mais si j'ai envie d'être sur une seule ligne pendant toute ma soirée de Noël, quel champagne choisir?
Ça dépend tellement des goûts, mais je dirais... Si vous voulez faire tout le repas avec un seul, peut-être plutôt un millésimé, parce que c'est un vin qui est plus vineux, il a été plus travaillé, et là, du coup, ça accompagnera tout.
Ok, d'accord, ça c'est pour ceux qui veulent éviter les mélanges, parce que ça peut arriver, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, ça finit par cogner un petit peu sur le coin de la castière. Il y a des champagnes donc, de marques de distributeurs qui sont peu connues, vous nous l'avez dit, qui rivalisent avec des champagnes de grand prestige. Est-ce que le prix est un indicateur fiable de la qualité du champagne?
Non. Le plus élevé chez nous, donc c'était effectivement un grand nom qui n'a pas eu une très 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 bonne note. On voit qu'il y a très bon champagne à 19 euros, 20 euros, il n'y a pas de règle en fait.
Mais c'est le prix juste d'une bouteille de champagne ça? Parce qu'en général on nous propose des prix qui sont plus conséquents. On a toujours tendance à croire qu'une bouteille à 19-20 euros ça va être un petit champ.
Pas forcément, là on le voit, on est souvent bluffé. On fait ces dégustations tous les ans et tous les ans on a des surprises plus ou moins bonnes. Oui. Mais c'est vrai qu'on peut être effectivement bluffé avec un champagne à 19 euros et être très déçu avec un 38-40 euros. Alors après, sur les champagnes, les grands noms de champagne, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à conseiller à les acheter chez un caviste ou chez un producteur, si vous en connaissez un, parce que en grande distribution, les champagnes qui partent le mieux, c'est évidemment les champagnes les moins chers. Donc, les chers restent un peu plus longtemps en magasin et pas forcément dans des bonnes conditions de conservation.
D'accord.
Donc, ça peut expliquer cela. Il y a d'excellents grands noms du champagne. Il ne faut pas accabler les grands noms du champagne, mais peut-être mieux vaut les acheter chez un caviste que là... en grande distribution.
Et c'est toujours sympa d'aller chez son caviste parce qu'il peut nous conseiller de grands champagnes comme des champagnes un peu plus confidentielles qui
Absolument.
Sont aussi délicieux. Donc, vive les commerçants en bas de chez nous. Le meilleur rapport qualité-prix pour ce Noël 2021, il revient à qui ?
Alors, c'est un millésimé qui est de Castellane à 19 euros.
Ok, très bien. Et je pensais aux champagnes bio aussi. Alors là, j'ai vraiment du mal à m'y retrouver, pour être tout à fait sincère.
Oui, alors le problème, dans le champagne, la part du bio est encore très très faible. C'est à peu près 5% de la production, alors qu'on est à peu près un peu plus de 17% pour les autres vins. Donc nous, on en a testé en proportion, on en a fait 3 sur 30. Alors c'est pas du tout homogène pour les résultats. On a un 9 avec un champagne bio de chez Leclerc, un 12,5 pour un Auchan et un 15 pour un Carrefour. Donc vous voyez, c'est pas uniforme. Alors pour le coup, ça aussi vaut mieux peut-être, comme les grands noms, aller chez votre caviste pour vous faire bien conseiller.
Bon, en tout cas, on aura du champagne Noël, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais je vous remercie Sylvie Metzeler pour tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs, magazine, ami de cette émission et actuellement en kiosque. À bientôt Sylvie et Noël et Joël.
Joyeux fête à vous et à vos auditeurs.
Vous dansez, Pierre Lesman ?
Oh, avec plaisir.
Vous avez mis
avec
votre costume plaisir. De Père Noël ?
Je suis prêt.
Vous avez votre grande barbe ? Et votre chapeau
oui.
rouge ?
Absolument. J'ai un petit peu d'avance, mais je suis prêt, je m'entraîne pour être parfaitement prêt.
C'est vrai que vous avez le temps, effectivement. Enfin bon, ça approche à grands pas quand même. Et puis alors là, on arrive, Pierre Nesman, alors que vous êtes paysagiste, on arrive à cette période là où on est en train de préparer nos logis pour les fêtes de Noël. En matière de déco végétale, il n'y a pas que le sapin, on en a parlé la semaine dernière du sapin, mais là on va aussi parler du gui, du houx, de tout le reste. À propos, quels sont leurs attraits justement à tous ces végétaux ?
L'avantage, c'est qu'ils ont des feuillages persistants, c'est-à-dire qu'ils vont garder leurs feuilles pendant l'hiver. Et donc, c'est effectivement un complément décoratif très intéressant pour mettre en valeur la maison, les tables de Noël. Et tout ça, évidemment, en complément du sapin de Noël.
On peut s'embrasser sous le gui.
Alors oui, effectivement, le gui, il a la possibilité, on va le récupérer, le collecter, faire des petits bouquets. Et puis effectivement, c'est une plante qui symbolise l'amour. Donc effectivement, il y a le traditionnel baiser sous le gui de l'an neuf. Mmh. Et puis, on parlait du houx tout à l'heure. Effectivement, le houx, eh bien, lui, on va pouvoir l'utiliser avec ses petites baies rouges et son feuillage persistant pour faire des décorations de table.
Voilà, il ne faut pas s'en priver, on l'a bien compris, pour les décos de Noël. Comment est-ce qu'on peut les utiliser ?
Déjà, une petite mise en garde, Flavie, ouais. Ce sont deux arbustes qui ont des baies toxiques. Donc faites très attention quand il y a des enfants. Voilà, exactement. Alors en général, en ce qui concerne le gui, on va le suspendre au-dessus d'une porte. Donc là, c'est vrai qu'il est perché assez haut. Donc les enfants et les animaux domestiques ne risquent pas de l'atteindre. En revanche, pour le houx, il faut faire attention. Et donc le houx, on va l'utiliser effectivement sur des milieux de table, en faisant attention, en enlevant peut-être les baies si jamais on sait qu'il y a des enfants en bas âge.
Bon, alors on a besoin de quel matériel, Pierre Nesman, pour faire une couronne de bienvenue ? Je n'ai jamais réussi à faire une couronne, Pierre. Je fais des pauvres guirlandes, des trucs qui tiennent pas longtemps. C'est un peu une catastrophe chez moi.
Alors, la première chose, on va récupérer dans la nature ou dans son jardin des éléments végétaux. Alors, des branches de sapin, bien sûr. On peut aussi trouver du cyprès, le cyprès quand on n'a pas de sapin. Et puis, toutes sortes de petites choses qu'on va trouver, des pommes de pin, des noix, des ferments de vigne, des morceaux d'écorce, un peu de mousse, par exemple. Alors, ça, c'est pour la partie végétale. Et puis, il y a la partie plus technique. Pour fixer tous ces éléments entre eux, eh bien, on va utiliser du fil de fer, du ruban, de la mousse de fleuriste. On va utiliser éventuellement de la colle, des bombes de couleurs, pour donner un petit peu de couleur. Okay. Et donc ça, c'est les matériaux dont on a besoin pour confectionner notre couronne de bienvenue.
Bon, maintenant que j'ai tout, hein, c'est comme un chef en fait avec ses ingrédients. Maintenant que j'ai tout, on va se retrouver dans un instant et vous allez nous expliquer comment fabriquer donc ces décos de Noël, parce que c'est sympa, en plus ce sont des moments qu'on peut passer en famille et ça c'est plutôt chouette, et en plus on fait des économies parce que c'est aussi le but des conseils de Nous Voilà Bien. À tout de suite Pierre sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien.
On est là pour vous donner des conseils pratiques pour améliorer votre vie quotidienne, pour faire de vous un consommateur averti, et puis pour vous permettre aussi parfois de prendre du plaisir en famille tout en faisant des économies. Et c'est ce dont on parle justement avec Pierre Nesman. Parce qu'avec vous, Pierre, vous qui êtes paysagiste et rédacteur en chef adjoint de Rustica Pratique, nous parlons justement de tout ce que la nature peut nous offrir. Il y a plein de choses autour de nous qui nous permettent de faire une déco de Noël et ça change des pauvres guirlandes en plastique, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses plus jolies, plus naturelles, plus écolo et qui coûtent rien.
Effectivement. Alors tout à l'heure, Flavie, on a fait un peu la liste des différents éléments dont on avait besoin, des ingrédients, effectivement. Mais on va ensuite les fixer sur une couronne. Alors la couronne, bah, pour ceux qui bricolent pas trop, c'est vrai que dans le commerce, on peut trouver des couronnes en sapin toutes faites, des couronnes en paille, des couronnes en branches d'arbustes. Mais pour ceux qui sont un peu bricoleurs, eh bien, on va pouvoir les fabriquer soi-même avec du fil de fer. Il faut patiemment cintrer les branches de sapin, les enrouler entre elles, les fixer avec du fil de fer et on va obtenir ainsi eh bien, la structure de notre couronne sur laquelle on va pouvoir fixer ensuite tous les petits éléments décoratifs que l'on a collectés au jardin ou que l'on a achetés comme des boules ou des bougies par exemple.
Alors, moi, jamais comprendre et moi, jamais y arriver. Ça veut dire qu'en fait, je prends mon fil de fer et à qui je donne une forme de couleur et avec ce fil, j'insère en fait les éléments naturels sur cette couronne de fil de fer, c'est ça ? Je fais tout en même temps.
Non,
je fais comme une tresse.
Flavie, là, vous êtes complètement...
C'est pour ça que j'y arrive pas.
Non, en fait, on va cintrer les branches de sapin, on va les réunir un peu en fagots et puis on va les saucissonner avec du fil de fer, tu vois.
D'accord.
Ça va être notre structure. Et sur cette structure-là, que ce soit du sapin ou que ce soit des branches, des sarments de vigne, eh bien, on va fixer ensuite les petits éléments décoratifs.
J'ai compris. Est-ce qu'on peut mettre des couronnes de bienvenue ailleurs que sur sa porte d'entrée ? Parce que c'est toujours le même truc.
Ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement, effectivement, sur une porte, mais on peut très bien les utiliser ailleurs dans la maison, sur un guéridon et pourquoi pas même en milieu de table.
Ben voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai déjà vu. Il n'y a pas que la porte d'entrée, il y a les fenêtres aussi qui peuvent annoncer Noël.
Et absolument, c'est vrai qu'on a souvent tendance à s'intéresser à l'intérieur de la maison et puis l'extérieur est aussi un élément que l'on peut décorer. Et là, moi, j'utilise très souvent les jardinières et les potées qui sont sur les rebords de fenêtres, sur les balcons, les terrasses ou de part et d'autre de la porte d'entrée pour piquer dans le substrat des branches de sapin, des branches de houx. On peut très bien aussi mettre des branches de saule à chatons, par exemple, ou des branches avec des écorces décoratives, quelques guirlandes, quelques boules, quelques pommes de pin, et puis tout ça devient absolument merveilleux. C'est une entrée qui est beaucoup plus merveilleuse et féerique que traditionnellement.
On va revenir à l'intérieur. Vous parliez de centre de table pour sa table de réveillon. Donc on a bien compris que sur une table ronde, on va faire un centre de table rond et on peut utiliser notre guirlande, enfin notre couronne d'entrée. Mais si j'ai une table rectangulaire ?
Alors là, on va faire plutôt ce qu'on appelle un chemin de table. Mmh. Le chemin de table, c'est utiliser des rameaux de sapin, mais ça peut être aussi des arbustes ou des éléments comme du lierre, par exemple. Eh bien, on va cheminer, créer une espèce de circulation au milieu de la table. Et de part et d'autre de ce cheminement de feuillage, eh bien, on va installer soit des bougies, des photophores, on peut installer des guirlandes, on peut installer même une guirlande lumineuse. Et là, c'est ce qui va donner un attrait à cette table, ce qui va lui donner un attrait de fête. Et c'est assez intéressant et surtout original pour pouvoir... décorer des tables qui sont plutôt longues.
Pour être original, justement, pour surprendre nos invités, qu'est-ce qu'on peut rajouter encore ?
Alors, il y a plein d'autres choses. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est d'aller réutiliser ce que nous donne la nature, des pommes de pin, des fleurs, des fruits un peu secs, et on va les bomber avec des bombes d'argent, des bombes de couleur or, des bombes de couleur rouge, et ça va donner, ça va scintiller, ça va apporter de la gaieté sur la table de Noël, mais avec des éléments, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Flavie, qu'on ne va pas forcément acheter, qu'on va chercher au jardin en famille, qu'on va ensuite s'amuser à décorer.
Pierre Nesman, les serviettes de table. Je ne sais pas chez vous, moi c'est toujours une galère. Je ne sais pas si je les mets à côté des couverts, si je les mets dans le verre, enfin je ne sais pas les plier. Il n'y a pas un moyen de les rendre plus jolies quand même ?
Bon, Noël, oui, on pourrait faire des choses beaucoup plus originales, comme par exemple récupérer des feuilles de feuillage persistant, comme le laurier sauce par exemple. On va les agrafer entre elles pour justement former un rond de serviette. Et puis dessus, on peut coller ou on peut fixer eh bien, de l'anis étoilé, quelques petits morceaux de cannelle, éventuellement des petites baies d'églantier, c'est un rosier. On peut aussi utiliser, pourquoi pas, des écorces de bouleau. L'écorce de bouleau, c'est une écorce blanche que l'on peut récupérer. Et on peut là aussi faire des petits ronds de serviettes, très jolis, très élégants. Et on peut les émailler, soit de petites pommes de pin et de petits éléments qu'on va trouver au jardin. C'est vrai que c'est assez original.
La mode est aussi au cadeau un peu do it yourself, hein, ce qu'on peut faire soi-même à la maison. C'est sympa d'offrir un petit bouquet, une petite composition à ceux qui viennent dîner.
Oui, justement. Et ce qui est intéressant, c'est de faire d'une pierre deux coups. Pourquoi ne pas avoir des petites verrines dans lesquelles on a effectivement installé du feuillage, on a installé des fleurs, pourquoi pas. Alors à cette saison, on va trouver des points de cessia, on va trouver peut-être des petits brins de mimosa quand on est dans le sud. Et puis mettre sur une feuille, inscrire sur une feuille le nom de l'invité, de la personne, des convives, de manière à pouvoir les positionner sur la table. Et à la fin du repas, eh bien, ils vont pouvoir partir avec leurs petites verrines qui est personnalisée puisqu'il y a leur nom. Et puis c'est aussi un petit cadeau un peu sympa, une petite attention qui est un peu sympa parce que justement on a récupéré des éléments dans le jardin et puis c'est assez original et puis ça fait toujours plaisir.
Merci Père Noël.
Voilà.
C'était super. Merci beaucoup Pierre Nessman pour tous ces conseils. Je vous souhaite une bonne déco.
Merci, bonne fête à tous.
Oui, voilà, à vous aussi. Je vous embrasse. Merci. Salut Pierre. Pierre qui est rédacteur en chef de l'émission Mission Végétale diffusée sur M6 et je conseille son nouveau livre Mon jardin s'adapte au changement climatique chez Delachaux et Niestlé. You're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. Bonjour, Plap Saropala.
Bonjour, Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Qu'est-ce que je suis contente de vous entendre.
C'est vrai, merci beaucoup et moi aussi.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on parle déjà de bouffe, de cuisine dans cette émission, je suis ravie. Mais alors, la cuisine thaï, comment vous dire? Ça, c'est votre spécialité. Vous êtes cofondatrice de l'atelier thaï à Paris dans le 19e. C'est près des buts de Chaumont. Qu'est-ce qu'on peut faire dans votre atelier? On peut venir apprendre?
Bien sûr, vous pouvez venir apprendre à cuisiner avec moi. On ouvre aussi bien aux particuliers qui aiment la Thaïlande, qui a été déjà en Thaïlande, oui. Et qui veulent reproduire les plats qu'ils ont aimés. En tout cas, on essaye de faire ça. Et aussi, on reçoit aussi des entreprises pour faire un icebreaking, en fait, un atelier cohésion. Voilà, face à un pâté, ils ne savent pas comment faire. Donc, du coup, la cuisine est un moyen, justement, de fédérer.
Ben, on va venir avec l'équipe de nous voilà bien. On va tous
avec
venir.
Plaisir. Avec plaisir.
Comment est-ce qu'on pourrait la décrire, la cuisine thaïlandaise? Parce que pour moi, il y a des épices, il y a des saveurs. Je trouve que c'est une cuisine saine, équilibrée. Moi, ça me rend joyeuse, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pour moi, j'ai souvent tendance à dire que c'est un savant mélange des épices sèches avec des herbes aromatiques du potager, voilà, et qui est travaillé avec des techniques ancestrales. Par exemple, à l'atelier, on va utiliser le mortier pour faire une pâte de curry.
Oui, très bien.
Voilà. Et puis, à la cuisine thaï, donc, comme dans beaucoup de pays, donc chaque région a sa spécialité. Par exemple, dans le nord, de par son paysage collinaire et son climat frais, oui, 20 degrés, c'est frais, c'est froid chez nous, hein, on constate l'importance du porc dans de nombreuses recettes, dans des saucisses, dans l'imprikon, ganghangle, dans taïhua. Voilà, et dans le nord-est, bien qu'on cultive beaucoup de riz jasmin, on mange plus de riz gluant. Et puis les habitants mangent très très pimenté. Ils aiment beaucoup le piment. Voilà, une poignée de recettes régionales comme la salade de papaye, je pense que vous connaissez.
Bien sûr.
Ou la salade de poulet à la poudre de riz font vraiment le rayonnement dans le pays et à l'étranger. Et aussi, dans le sud, on mange beaucoup de poissons, de fruits de mer, de coquillages. Alors, on le mange souvent avec des sauces citronnées et épicées. Et bien sûr, dans le centre, donc à Bangkok, d'où je viens, on fait des créations très raffinées avec de nombreux ingrédients, le curry vert, par exemple, qu'on essaie de faire nous-mêmes et avant de diluer dans un lait de coco tout doux.
Oh,
voilà.
C'est comme ça
que je qualifierais ma cuisine thaï.
Eh bien, voilà. Écoutez, ça fait très envie. On va se retrouver dans un instant. Plap, dans nous voilà bien sur l'antenne d'RTL pour poursuivre le voyage. Et puis, bien évidemment, vous allez nous donner et des conseils et des recettes. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Vous savez ce qu'on va faire pour cette rubrique cuisine dont nous voilà bien? On va faire un grand voyage et on va partir en Thaïlande. Et notre guide justement en cuisine, c'est Plap Saropala. Elle est cofondatrice de l'atelier Thaï que l'on retrouve dans le 19e arrondissement de Paris, mais que l'on retrouve également sur les réseaux sociaux. Plap, vous venez de nous raconter la cuisine thaï. Voilà, c'est plein de couleurs, c'est plein d'épices. Alors je tiens à préciser quand même pour ceux qui nous écoutent et qui n'aiment pas la cuisine épicée, trop forte, qu'on peut adoucir tout ça. Ça n'est pas toujours, je ne sais pas comment vous le dire, mais ça n'arrache pas forcément la bouche, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, on parle d'un curry.
Oui.
On peut faire soi-même la pâte. La pâte, justement, j'ai bien précisé qu'on faisait, on pouvait faire soi-même la pâte avec le mortier. Donc, en fait, si vous suivez la recette que vous avez devant vous, vous retirez tout simplement le piment.
Mm-hmm.
Voilà, ça, c'est la première chose. Si vous faites vous-même la pâte. Après, si vous achetez la pâte en grande surface, vous pouvez aussi vérifier le pourcentage de piment qui est présent sur la boîte de conserve ou le paquet. Si jamais, alors c'est un peu trop tard, tout est déjà dans la marmite, vous avez déjà dilué votre pâte de curry dans le lait coco, par exemple, vous trouvez ça vraiment beaucoup trop pimenté. Mmh. Alors moi, ce que je conseille de faire, c'est qu'on enlève une partie de cette sauce et on rajoute le lait de coco. Et après, vous gardez le reste de votre pâte diluée pour faire un autre curry le lendemain ou à un autre moment.
Voilà.
Et si vraiment tout est déjà sur la table, c'est trop tard, bah dans ce cas-là, servez beaucoup de riz et puis faites-vous beaucoup d'eau glacée.
Mais c'est vrai que le lait de coco, ça sauve la mise, mais à chaque fois. Je récapitule donc les ingrédients pour se mettre à la cuisine thaï. L'ail, le poivre, la racine de coriandre, la sauce d'huître, le riz, la citronnelle, le galanga, le sucre de noix de coco, la poudre de riz, la sauce de poisson, les cacahuètes, le citron vert, la sauce de soja et le lait de coco. Maintenant, on va s'y mettre. On y va franco. Alors, comment est-ce que je fais une salade thaï ?
Il y a beaucoup de salades en Thaïlande, mais on va s'intéresser à la salade qui est la plus connue, on va dire la salade de papaye. Pour la salade de papaye, il vous faudra déjà une papaye verte, d'accord ? Et après, des tomates cerises, des haricots kilomètres, comme ingrédient un peu exotique. Et après, pour la sauce, il faudra de l'ail, du piment, c'est facultatif, on est d'accord, hein ?
Mmh.
Du sucre noix de coco, de la sauce de poisson, le jus de tamarin, si vous en avez, du jus de citron, voilà. Et après, vous mélangez tout ça dans un mortier, si possible, avec un pilon en bois, et vous rajoutez des cacahuètes en dernier.
Très bien.
Ça vous fait déjà voyager.
Et là, j'ai ma salade thaï. Les soupes parfumées, comment je fais une soupe de poulet au lait de coco Tom Kakai ?
Alors, comme je l'ai évoqué,
ça veut dire quoi, Tom Kakai, d'ailleurs ?
Alors, Tom, ça veut dire faire bouillir.
Mmh.
Ka, c'est le galanga, voilà, et kai, c'est le poulet.
D'accord.
Alors, du coup, pour faire cette recette, il faut que vous trouviez absolument le galanga.
D'accord.
Parce qu'en fait, sans le galanga, il n'y a pas
de
tom kha.
Bon, ça, on peut le trouver sur Internet, les épiceries fines, thaïes.
Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus, vraiment.
Oui,
tout à fait.
Alors, donc, je fais quoi ?
Après, alors, vous faites bouillir. Il faut penser infusion. Vous faites infuser dans un bouillon de poule ou juste de l'eau le galanga. Et le galanga, c'est le principal. Et un peu de feuilles de kaffir, si vous en avez. Voilà. Et après, vous mettez le lait coco. Et on assaisonne avec un peu de sucre. Juste un tout petit peu de sucre. Vous mettez le jus de citron vert, la sauce de poisson. Et normalement, vous avez déjà votre bouillon avec. Et vous rajoutez du poulet si vous souhaitez avoir justement tom kha kai. Donc, le velouté de galanga avec le poulet.
Très bien.
C'est très simple. Voilà.
Oui, mais en fait, voilà, ça n'est pas compliqué, la cuisine thaï. Le riz sauté thaï, il paraît qu'il faut prendre du riz de la veille, c'est vrai ?
Oui, parce que pour faire sauter le riz, il faut que le riz soit froid. C'est pour ça.
D'accord.
Vous voyez, donc en fait, si jamais vous faites cuire votre riz, le riz, il est tout beau, il est tout chaud, et en fait, vous le faites encore frire, faire sauter dans la poêle, le riz sera trop, trop cuit. Vous voyez ?
Okay.
Donc, en fait, idéalement, le secret, c'est utiliser le riz de la veille.
Ok, voilà. Et je fais
après, vous faites sauter. En fait, généralement, nous, on commence avec un peu d'huile, de l'ail, des oignons, si vous voulez. Vous mettez la protéine, la viande que vous souhaitez. Ça peut être, je ne sais pas, moi, je dis ça, des lardons ou, je ne sais pas, des saucisses, les restes de la veille, voilà. Et après, vous mettez un œuf. Voilà, vous attendez un tout petit peu que l'œuf coagule et après, vous mettez le riz froid à l'intérieur et vous mélangez le tout ensemble. Je le dis souvent à l'atelier que, en fait, le riz sauté doit être fait en moins de 5 minutes. Voilà.
Ça peut être vraiment de la cuisine parfumée du quotidien. Là, le soir, quand les enfants rentrent de l'école, on fait un petit riz sauté. C'est complet, c'est bon pour la santé, c'est sain. Et en plus de ça, ils mangent des légumes avec le riz, donc c'est absolument parfait. Le temps nous manque, évidemment, comme à chaque fois. Mais j'aimerais bien, avant que vous nous expliquiez, parce qu'on parlait de Noël il y a un instant avec Pierre Nesman et Sylvie Metzeler, nos invités précédents. Les fêtes arrivent. Si on mange des huîtres, est-ce que vous pouvez nous proposer, je ne sais pas, une sauce qui changerait un petit peu de l'ordinaire?
Bien sûr. Alors, les Thaïlandais aiment bien manger les huîtres avec une sauce citronnée. Moi, ce que je recommande, c'est de mélanger une cuillère à soupe de sauce de poisson avec une cuillère à soupe de jus de citron, de rajouter à ça une petite cuillère à café de sucre de noix de coco, rajouter de l'ail haché, du piment rouge. Alors, pour nous, notre version, il faut que ce soit pimentée, un peu de piment rouge frais et quelques tiges et feuilles de coriandre. Et alors, si vous avez un mortier, vous mettez tout ça dans un mortier, vous pilez. Si vous avez un mixeur, vous mixez l'ensemble. Et avec ça, vous mettez quelques gouttes sur vos huîtres. Et je pense que ça fait déjà du voyage de fin d'année.
Très bien. Et le pad thaï, alors ? Le traditionnel pad thaï, ce sera la recette pour la fin ?
C'est un petit peu plus compliqué. Il vous faudra quand même un petit peu plus d'ingrédients. Donc, le tamarin. Dans la sauce du pad thaï est faite à partir de mélange de sauce de tamarin, la sauce de poisson et le sucre de noix de coco. Ça, c'est la sauce. Après, le secret du pad thaï, c'est de ne pas trop faire trop cuire les nouilles. D'accord ? Donc, des nouilles qui sont des pâtes de riz. Hein. Enfin, c'est fait à base de pâtes de riz. Déjà, réhydrater les pâtes de riz. Et après, une fois qu'elles sont un petit peu plus souples, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut les plonger dans l'eau pendant 14 secondes. Pas plus, pas moins. Et après, vous attendez que ça refroidisse. Encore une fois, c'est comme pour le riz sauté. Il faut que ça refroidisse un peu. Et après, on commence par de mettre de l'huile dans la poêle. Vous mettez des échalotes, du navet salé. Ça, c'est aussi un autre secret. Et après, vous mettez des crevettes, l'œuf, les nouilles de riz. Vous mettez votre sauce à base de tamarin, de sucre, de noix de coco et la sauce de poisson. Vous mélangez tout ça, vous rajoutez des jeunes pousses de haricots mango et vous terminez avec les feuilles d'ail. Et voilà. Ah oui, les cacahuètes aussi. Il ne faut pas oublier les cacahuètes.
Toujours voilà. Les cacahuètes. Merci beaucoup, en tout cas, Plap Saropala, d'avoir passé ce temps avec nous. Comment est-ce qu'on dit au revoir déjà ?
Sawadika. On dit bonjour comme on dit au revoir. Sawadika.
Sawadika. Et Kopkunka, ça veut dire quoi ?
Kopkunka, ça veut dire merci.
Voilà.
Kopkunka.
Kopkunka et Sawadika, Plap Saropala, et à bientôt sur RTL.
Au revoir.
Nous voilà bien, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les bons conseils de nos invités, séance de rattrapage en replay sur rtl.fr et puis toutes les recettes que vous avez également entendues, vous les retrouvez sur le site RTL. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi 20h sur RTL pour Jour J. Jour J, c'est votre magazine qui revisite les grands événements qui nous ont tous marqués. C'est passionnant, c'est chaque soir et c'est en replay également sur l'application RTL. Rendez-vous la semaine prochaine 9h15 pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. D'ici là, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.